Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille! Familial, 2 jours. Moniparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami, Roger Yangang, va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution.
Barbu de ville!
Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires.
Bienvenue dans la Josette du Barbu, épisode 367. Il fait présentement 19 degrés à l'extérieur de nos studios. Le temps est gris, il vente un peu, le soleil est caché en quelque part en arrière d'un nuage, mais ça ne nous empêchera pas de passer une belle journée. On est mercredi. J'enregistre cet audio. J'enregistre la Josette du Barbu, épisode 367, mercredi à noter. Mais première chose, la chose la plus importante, as-tu fait ton lit ce matin? As-tu fait ton lit comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Vitaly Klitschko, le maire de Kiev, comme Jean-Yves Lavoie de NGLN Volcar, comme Simon Chartrand? Parce que tu sais, faire son lit, c'est une micro-réussite. Tu commences ta journée avec une réussite. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas fait une opération à cœur ouvert, mais t'as réussi le premier geste de ta journée. Voilà. Premier sujet de la Josette 367. À tout seigneur, tout honneur, Jonathan Drouin, le numéro 27 du Canadien de Montréal. Pourquoi Jonathan Drouin? Ben parce que Jonathan fait encore jaser. Il avait son tournoi de golf hier ou avant-hier. Puis il y a une fondation, celle de Guy Lafleur. Le fils de Guy Lafleur était là, Martin, pour remplacer son père, évidemment, qui est mort. Donc, Jonathan, il a fait jaser à travers les journaux. Jonathan Drouin, c'est un joueur, c'est un gars qui polarise. Drouin, il se dit en forme et prêt à attaquer une nouvelle saison. C'est la dernière saison de son contrat de 6 ans avec le Canadien de Montréal. Après, il va devenir agent libre, sans restriction. Que dire sur Jonathan Drouin? Il y a bien des affaires à dire. Je pense que Montréal, premièrement, en commençant, Jonathan Drouin, c'est une bonne personne, c'est un bon humain. Mais ce qui a trait au hockey, on va dire les vraies choses, si vous voulez mon opinion. Le marché de Montréal n'est pas un marché pour Drouin, clairement. Lui, il a besoin d'aller jouer dans un marché, exemple, comme celui de Phoenix. C'est tranquille, il y a un journaliste pour suivre l'équipe. Après les parties, il ne se fera pas chaler, il va pouvoir jouer ses games et faire ce qu'il y a à faire. Moi, ce que je vois au cours des dernières années avec le numéro 27, c'est une pression qu'il a sur les épaules continuelles, puis il n'est pas capable de vivre avec. C'est-à-dire que oui, c'est une chose, jouer au hockey, d'avoir du talent comme il y en a. Il y a beaucoup de talent, ça y sort par les oreilles. Il y a un bon coup de patin, il y a des bonnes mains, il y a tout ce qu'il faut pour bien jouer. dans la Ligue nationale. C'est un joueur de la Ligue nationale. Il y a à ne pas en douter. Par contre, il y a un élément qui lui manque, qui va toujours lui manquer. C'est pour ça qu'il ne peut pas être le centre de... Il ne peut pas jouer sur ton premier trio. Il peut jouer sur ton deuxième trio dans une équipe, dans un petit match. OK? Jonathan, ce qui lui manque, c'est la force entre les deux oreilles. C'est ça qui lui manque. Le caractère. C'est un gars sensible. Puis c'est pas péjoratif. Puis c'est pas méchant ce que je dis. Mais Jonathan, pour moi, là, à mon humble opinion, peut pas jouer dans un marché comme Montréal. C'est impossible. Puis de la façon qu'il est arrivé ici, on l'a échangé pour un premier choix qui s'appelle Mikhaïl Sergachev. Sergachev est devenu un des bons défenseurs dans la Ligue nationale. Jonathan, lui, est encore une énigme. Donc, c'est sûr, ça joue sur, ça joue dans ses bébites, ça joue entre ses deux oreilles. Puis à Montréal, on ne l'aide pas avec ça. Ceci étant dit, ce que je souhaite à Drouin, c'est de finir la saison à Montréal ou qu'on l'échange pendant la saison et que le 27, je suis persuadé que Drouin va aller réussir ailleurs dans un marché qui va lui convenir. Ben, je lui souhaite d'attendre à l'année prochaine comme agent libre. Il va signer à moindre prix, c'est clair, mais je lui souhaite de trouver une place où il va pouvoir s'épanouir. Il mérite ça. Il ne l'a pas eu facile au cours des dernières années dans la métropole. Voilà, c'était mon opinion sur Jonathan Drouin. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Hey, dans la catégorie « mauvais service », j'en parle pas souvent, mais là, ça dépassait l'impensable. Le U-Haul à Ville-la-Chine. Hey, j'en ai vu là, des mauvais services à la clientèle dans ma vie. J'en ai même donné moi-même. Mais là, ça dépasse l'entendement. J'ai jamais vu ça. J'allais simplement... J'ai loué un camion de déménagement. J'allais le reporter. J'avais ma facture. Je devais une cinquantaine de dollars de plus, puis ça terminait la facture. J'allais simplement payer ça, puis c'était fini. Il n'y avait rien de compliqué. Mais savez-vous combien ça a pris de temps avant que je me fasse servir? 40 minutes. J'attendais en ligne. Il y avait deux personnes en avant de moi. Il y avait deux caissiers. Ça l'a pris 40 minutes. Mais ce que je vois, ce que je comprends, c'est que de la façon que U-Haul fonctionne, c'est désuet. De la façon que U-Haul fonctionne, il y a ben trop de paperasse, ben trop d'affaires à remplir. C'est sûr que tu ralentis ton processus. Puis, si tu veux garder ce processus-là, ben ça ne te prend pas deux caissiers, là, ça t'en prend trois, minimum. À trois caissiers, je pense que tu peux réussir à faire le travail. Mais à deux caissiers, c'est pas assez. Avec comment ils fonctionnent, toute la paperasse qu'ils ont à remplir, les ordinateurs semblent d'une lenteur incroyable. Puis c'est gros, U-Haul, là. C'est gros. C'est grand, il y a de l'espace. C'est incroyable comment c'est gros. Comme emplacement. Donc, c'est à s'y perdre, premièrement. Juste de trouver l'entrée, c'est déjà quelque chose. Mais l'attente, j'en revenais pas. Bon, il y a des gens qui n'ont pas aidé. Il y a des clients qui n'aidaient pas, là, qui n'avaient pas d'affaires là, mais qui posaient 3000 questions. Mais 40 minutes à attendre debout, à attendre son tour juste pour payer, pas juste pour repayer 50$ dans la machine Interaxis. Leur système est complètement horrible. Puis j'étais en train de perdre patience, évidemment. Mais je me suis retenu parce que on s'entend, là, tu veux pas... tu sais, on s'entend, tu veux pas... tu sais que c'est pas de la faute des commis qui sont là, eux autres, ils font juste leur job, là. Mais c'est horrible. C'est horrible l'attente. Je te le dis, je n'ai jamais vu ça. Après, il y a eu une commis, une caissière, c'est-à-dire qu'il est venu avec moi vérifier le U-Haul. Mais même encore là, le processus de tout ça, ça n'a pas d'allure comment que c'est long. Vérifier les pneus, ça n'a pas d'allure. C'était d'une lenteur incroyable. Bref. Si tu vas chercher du matériel chez U-Haul à la Chine, je te conseille une chose. Prends ton temps. Sois pas pressé. Autre sujet. Les Alouettes de Montréal. Là, il y a une campagne pour sauver les Alouettes? Qui va acheter les Alouettes? Mais qui veut acheter les Alouettes? T'achètes quoi, là? Une douzaine de casses? Une coupe d'épaulette? T'achètes quoi? T'achètes de l'air? T'achètes rien? Dans une ligue qui n'est plus l'ombre d'elle-même, dans une ligue qui fait pas bien les choses, dans une ligue qui a de la misère depuis longtemps, moi, je pense que les gens qui veulent préserver les Alouettes, c'est des nostalgiques. C'est simplement ça. On veut se rappeler les belles années de Sam Etcheverry. Hey, ça fait longtemps, là, c'est les années 60. On veut se rappeler peut-être, pour les plus jeunes, on veut se rappeler l'arrivée de Mike Pringle des années fin des années 90, début des années 2000, avec les Ben Cahoon, avec tous ces joueurs-là. C'est plus ça, les Alouettes. Puis, les plus jeunes ne s'intéressent pas à la Ligue canadienne de football. C'est des amateurs de la NFL. La plupart sont devenus des amateurs de la National Football League. On ne peut pas les blâmer. C'est la Ligue numéro un au monde. C'est comme ça. À Montréal, il y a deux sports maintenant dignes de ce nom. Bon, les Canadiens dans la NHL, puis il y a le CF Impact de Montréal dans la MLS. Ça se termine là. C'est plate à dire, les Alouettes, c'est un oiseau mort. Ou c'est un oiseau qui va mourir, qui est en train d'agonir, en tout cas. Il est agonisant, ça c'est clair, net et précis. Puis moi, je pense que les gens qui veulent refaire revivre les Alouettes, c'est des grands, grands, grands nostalgiques. Puis je les blâme pas, j'ai le même réflexe avec les Expos. Mais là, on parle peut-être d'un consortium comme... pour les Argonauts. C'est-à-dire, Saputo et Molson pourraient se réunir pour acheter les Alouettes et faire vivre les Alouettes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Molson peut racheter les Alouettes? Oui, certainement. Là, c'est pas une cassure pour lui. Saputo aussi peut embarquer. Puis, ça serait la seule solution, tant qu'à moi, la seule solution logique. J'ai aimé les Alouettes aussi. Moi, l'époque que j'ai aimé les Alouettes, c'est la deuxième mouture des Alouettes. Là. Sinon, j'étais trop jeune avant. Moi, j'ai connu la machine, puis après ça, est arrivé les Alouettes. Bon, là, j'ai trippé quand les Alouettes sont arrivées avec les Mike Pringle de ce monde, les Michael Soule, regretté Michael Soule, qui était tout un fullback. Après ça, les Bruno Eppel. Tu sais, j'ai trippé sur ces gars-là. Maintenant, je connais aucun joueur de l'équipe. Je sais pas c'est qui coach. Je sais juste que Danny Machocha il est à la barre de l'équipe. Bon, c'est Machocha qui coach, je pense, présentement. Ça m'excitait de savoir que Danny était là. Mais là, ça prend des nouveaux propriétaires. Je suis pas contre l'idée, parce que peut-être que j'embarquerais dans le bateau, tu sais, s'il y avait des nouveaux propriétaires. Puis c'est sûr que la Ligue, faut qu'elle soit revampée. Peut-être devenir un club-école de la NFL, ça pourrait être intéressant, tu sais. Ça pourrait permettre aux gars d'ici de venir jouer, peut-être aussi accepter moins d'Américains puis faire jouer nos gars, les Canadiens, c'est-à-dire permettre aux gars qui sont dans les ligues universitaires canadiennes d'avoir une chance après d'évoluer ici, baisser les salaires. Je ne sais pas comment ils pourraient faire ça. Puis aussi arrêter de mettre des games à tous les jours, là, tu sais. C'est pas suivable. Faites comme la NFL. Tu sais, la NFL, c'est le dimanche. Ça commence le dimanche matin. Bon. Vu que le début de saison de la CFL n'est pas vraiment en même temps que la NFL, quand la NFL arrive, ben c'est la fin de saison de la CFL. Peut-être que la CFL, elle, pourrait prendre le samedi. Peut-être que tu as une solution, un match. Au lieu d'être un... Tu sais, il y a le Monday Night Football. Tu peux faire le Tuesday Night Football, une game du mardi. Puis après, tes autres games, tu les mets toutes le samedi. Puis ça finit là. Bref, ça fait longtemps qu'on parle des Alouettes, puis ça fait longtemps que c'est un animal mort, mais bon, on verra pour la suite des choses. Dernier sujet. Bon, ben je sais pas si c'est le dernier sujet, mais bon, j'ai découvert une petite boucherie à Ville-la-Salle, ouais, qui s'appelle La Préférence. Si t'es dans ce coin-là, si t'es de la Chine, Verdun-la-Salle, bon, faut savoir une chose, nous, à la Chine, on n'a plus de boucherie. La boucherie Claude a fermé il y a 2 semaines. Imagine-toi donc, elle a fermé puis était ouverte depuis le début des années 60. C'est la fin d'une époque. Là, on cherchait une boucherie, nous, puis on a découvert la préférence à Ville-la-Salle. Il y en a une à Dorval aussi, que je vais aller voir. Je t'en parlerai évidemment dans un autre podcast. Mais la préférence, tu rentres là, ça sent les boucheries des années 70. On dirait que ça a été... ça a gelé dans le temps. C'est ce qu'une boucherie de cette époque-là... C'est une boucherie de cette époque-là doit ressembler, c'est exactement ça. Bon, c'est pas up-to-date, mais moi, j'adore ça. Puis quand je dis ça, figé dans le temps, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, au contraire. Il y avait beaucoup de stock, beaucoup de choix, énormément de choix, puis ça, j'ai apprécié ça. Énormément de choix. Très, 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 très intéressant. Un beau service à la clientèle et des prix difficiles à battre, moi, te le dire, là. Des T-bones à 7 piastres, on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, là, moi, te le dire. La belle viande, des beaux produits nichés aussi d'Italie, OK, comme de la liqueur Brio, ça, moi, je trippe là-dessus. Plein de congélateurs aussi avec de bons produits. Bien, bien apprécié ma petite visite. Puis on s'est acheté des cannoli cette journée-là. Puis des paddies jamaïcains aussi qu'on a fait geler. Donc, ben moi, c'est des... Tu me connais un peu, là, tu sais que je suis foodie. C'est le genre de patente que j'aime dans la vie. Donc, j'étais bien content de visiter ça. Puis ça va devenir notre boucherie officielle. Moi et ma blonde. Il y en a une à Dorval que je vais aller voir avant. Que je vais aller voir aussi, puis je t'en jaserai aussi pour te dire qu'est-ce que j'en pense. Mais la préférence, là, figée dans le temps, comme dans les années 70, dans les années 80, mais un beau modèle de boucherie. Tu sens là, tu rentres là, c'est-à-dire, puis ça sent bon. Il y a une odeur particulière dans ces boucheries-là, je ne sais pas comment l'expliquer. Mélangé avec l'air climatisé, le froid, la chaleur, les produits, les épices, il y a une odeur qui est difficile à décrire, mais une odeur... que moi, j'adore, puis ça me rappelle des souvenirs, peut-être, quand je travaillais en boucherie, tu sais, ça me rappelle la boucherie Côté, là. Tu sais, il y en a deux, une à Saint-Jérôme, une à Saint-Canute, il y en a une à Sainte-Dorothée, une à Boisbriand, de la famille Côté. Ça me rappelle ça, tu sais, ça me rappelle des souvenirs du temps que moi, j'y travaillais. Bref, la préférence à Ville-la-Salle, si t'es dans ce coin-là, va voir ça, tu ne le regretteras pas. Dernier sujet, puis là, c'est vrai. Le Daily Buffer Podcast de mon ami Yann Thériault. Je t'en parle souvent, mais m'a t'en parlé encore. Quel bon épisode qui vient de sortir. Tu peux avoir ça sur YouTube en vidéo. Va sortir éventuellement en audio aussi sur toutes les bons podcasters, sur toutes les bonnes plateformes. Il reçoit un ami personnel... qui s'appelle Michel Grenier, qui est aussi l'agent de Mike Ward, l'agent de Desmarais, l'agent de Martineau, puis j'en oublie un, l'agent de Guillaume Wagner aussi, et le frère de Daniel Grenier, puis l'agent de Daniel Grenier aussi. Super bon épisode de 2 heures et quelques, très intéressant. On parle de son métier. C'est un gars que plein de choses à dire, qui est très verbomoteur avec Yann. C'est parfait. J'ai bien aimé ça. Je te suggère fortement cet épisode-là. C'est un bon épisode. Puis je le répète, Yann Thériault a upgradé sa game avec ses entrevues. J'adore ça. Sur ce, c'était ma suggestion de l'épisode. Sur ce, c'était la Jasette du Barbu 367. Puis je te souhaite plus beau mercredi de ta vie.
Luc Normand, CPA. C'est plus qu'un comptable, c'est un gars de terrain. C'est un représentant financier. Luc Normand, CPA, couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. C'est un VP virtuel aussi. Financement, subvention, production, vos RH, la paye. C'est simple, Luc Normand, CPA.